Je laisserai certaines choses de côté parce qu'on ne peut pas, absolument tout épuiser. Alors, nous allons commencer par la mesure de foi. Je vais regarder cela d'une façon assez brève, mais il faut quand même le voir. Nous avons dit que les ministères étaient spécialisés. C'est vrai. Ils sont spécialisés. Je rappelle cette image qui est importante. L'Église est un corps et ce corps dispose d'organes ou de membres. C'est le mot de Paul. Organes ou membres qui sont différenciés. Ce qui caractérise un corps vivant, c'est que il a des fonctions, il a des organes ou des membres qui exercent des fonctions différenciées. Voilà l'Église. Ça peut pas être autrement. Par conséquent, n'est-ce pas, il y a des ministères spécialisés, différenciés, eux aussi. Seulement, s'ils sont différenciés, il ne faut pas qu'ils se confondent. Et c'est bien ce que nous montre la parole. Je vais lire dans Romains 12, 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous allons voir tout à l'heure un autre texte parallèle. Mais ce que veut dire ici l'apôtre Paul, c'est que tout ministère doit savoir se limiter. Non seulement, non selon son propre jugement ou sa propre sagesse, mais selon la mesure que le don de Dieu implique. Le don de Dieu qui est spécialisé implique nécessairement une mesure. Il importe d'être et de faire. Vous savez qu'on ne peut pas, ça c'est encore un enseignement profond biblique, pour faire, il faut être. Ça, c'est logique, n'est-ce pas? Si on veut faire de la médecine, il faut être médecin. Bon, alors, la Bible nous montre cela. Pour faire, il faut être. Alors, il importe d'être et de faire limitativement ce que Dieu appelle chacun à être et à faire. C'est ce que veut dire Paul. Évidemment, la traduction ici n'est pas très très claire. Il semble que l'apôtre dise que chacun a une foi limitée. C'est pas ça, parce qu'au contraire, nous voyons partout que la foi est grandissante et doit grandir, doit se développer. Dieu ne veut pas limiter la foi, il la désire au-dessus de tout, il l'attend, il nous la demande, il nous demande l'exercice de la foi. Alors il ne va pas la limiter, mais il s'agit ici de limiter ce que chacun doit être et faire selon le plan de Dieu. Le don que l'on a reçu ou la qualification, quand je dis le don, il peut y avoir un petit faisceau de dons à la base d'un ministère, n'est-ce pas ? Je l'ai déjà précisé à quelqu'un. Enfin, je dis le don, le charisme. Le charisme limite l'aspiration. Il ne faut pas aspirer au-delà de son charisme. Et chacun, s'il veut être fidèle, se tiendra dans la mesure que Dieu lui donne pour exercer sa foi active. Voilà ce que Paul veut dire. Se tiendra dans la mesure que Dieu lui donne pour exercer sa foi active. Et là seulement, il réussira et sera utile. Alors, un second texte, c'est dans Éphésiens 4, et le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, c'est peut-être plus net cela. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est la même recommandation. La grâce de Dieu ne peut être donnée pour être unique. Elle ne peut
être donné que pour être uniquement opérant dans les limites de la qualification par le Saint-Esprit. C'est précisément, comme je le disais tout à l'heure, la diversité de dons, de ministères et d'opérations qui va contribuer à l'unité de l'Église en la bâtissant. J'ai eu l'occasion de faire tout un développement là-dessus il y a quelque temps. L'unité, mais si on veut l'unité, ne nous trompons pas, n'allons pas chercher des conceptions et des moyens humains, et surtout ne donnons pas raison aux ambitions de la chair pour construire l'unité de l'Église. L'unité, c'est la diversité qu'il a créée. Si on veut vraiment un corps vivant, un corps qui soit unique, libre, eh bien, il faut que toutes les fonctions différenciées puissent s'exercer librement. La diversité s'accorde avec la doctrine du corps de Christ, je le répète. La doctrine du corps de Christ impose cette notion de diversité. Le corps est un assemblage cohérent qui a besoin de fonctions différenciées, tout comme un corps humain. Ces fonctions différenciées sont indispensables à la vie et à son développement. Bon, j'arrête là ce paragraphe sur la mesure de foi. Nous arrivons à la construction de l'Église. La construction de l'Église nous amène à revoir une fois de plus ce passage tellement important d'Éphésiens 4 et verset à partir du verset 9 ou du verset 9, oui. Alors, je relis. Je pourrais peut-être le lire, tiens, là-dedans. Ça n'est pas mal. Nous l'avons lu déjà plusieurs fois, mon frère et moi. Nous pourrions le lire dans la version en français courant. Alors, nous avons Éphésiens 4, verset 9. Or, que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres encore d'être évangélistes, pasteurs ou enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues et poussés çà et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes trompeurs qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle le doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. C'est pas mal, cette version, cette traduction, n'est-ce pas? Elle nous apporte peut-être une manière de considérer cet enseignement de l'apôtre Paul sous un angle un peu différent. De tout sens, elle répond mieux à l'intention du grec. Il faut dire que là, le grec de Paul n'est pas des plus faciles à traduire. Alors, la construction de l'Église. La construction de l'Église se poursuit constamment. Les apôtres travaillent à la fondation de l'Église, ils constituent des églises locales. Les prophètes stimulent la construction. Nous avons largement parlé de ce ministère-là. Les évangélistes appellent au salut et ont le don d'éveiller la foi dans les cœurs. J'insiste beaucoup, l'évangéliste doit être pourvu du don de la foi, c'est non seulement pour qu'il ait lui-même une foi très très agissante, très forte, mais pour qu'il éveille la foi. Ça c'est important, éveille la foi chez ses auditeurs. Les pasteurs ou bergers sont les auxiliaires du souverain berger pour paître l'Église. Les docteurs sont chargés de l'enseigner. Et quel est le but vers lequel convergent les activités de ces différents ministères? Quel est le but? Nous allons dire qu'il est triple. Mais il y a, dans le passage, mais il y a pour ces ministères un premier but à atteindre. Ces ministères doivent concourir au perfectionnement des saints. Et le sens est celui-ci dans la théobée, dans la tobe, la traduction œcuménique de la Bible. Le sens est là que je pense qu'il est, il est le mieux exprimé. Le sens est celui-ci, mettre les saints, c'est-à-dire les membres de l'Église, en état d'accomplir le ministère. Ici, on employait le mot service, d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ. Et ce ministère qui, le ministère au singulier pour bâtir le corps de Christ, ce ministère, c'est ce que Pierre, appelle le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal qui est proposé à tous, c'est-à-dire que tous ont part à ce travail dans le sacerdoce royal de l'Église. Par le travail des ministères spécialisés que nous venons de voir, l'ensemble des saints, des membres de l'Église, devenant des disciples accomplis, Et instruit, disposant d'une foi affermie, ça nous l'avons aussi, vont participer au sacerdoce royal dont parle Pierre dans son premier épître, chapitre 2. Ils vont participer au sacerdoce royal en annonçant, Pierre le précise, en annonçant les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc les ministères vont préparer les membres de l'Église. Et le travail, la construction de l'Église revient à l'Église tout entière. Chers amis, si nous ne sommes pas vraiment en face de ce plan, de ce dessein arrêté de Dieu, c'est que nous faisons autre chose. Nous marchons selon d'autres conceptions. Des conceptions qui se sont imposées par les habitudes et les traditions. Et ça ne peut pas satisfaire Dieu. Ça ne peut pas être en faveur d'une croissance vraiment suivie et importante de l'Église. Autrement dit, les saints affermis par le jeu des ministères, vont des ministères apostoliques, puisqu'on les a, moi je les ai appelés comme ça, le frère aussi, les ministères apostoliques, ces saints, affermis par ces ministères, vont exercer en nombre le témoignage actif de Jésus-Christ et faire rayonner sa lumière, et ils vont réaliser cette parole, c'est ça le sacerdoce royal, ils vont réaliser cette parole, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes tous, sans aucune exception. Alors, les trois buts qui sont très apparents dans le grec, beaucoup moins dans notre traduction, car il est assez difficile, je vous le disais, de traduire ce passage. Mais les trois buts qui sont nettement spécifiés dans le texte original sont les suivants. Le perfectionnement des saints par l'œuvre des ministères spécialisés. Nous venons de le voir. Premier stade. Deuxième, le sacerdoce de l'Église. L'Église exerce le sacerdoce royal. Là, on pourrait en parler longuement, mais citons-le seulement, en annonçant, nous l'avons précisé, les vertus de celui qui a appelé chacun des ténèbres à son admirable lumière. Le troisième but, c'est l'édification, c'est-à-dire la construction du corps de Christ dans toute son étendue. Le corps de Christ se construit, il est en croissance, et Monsieur Peter Jones nous a dit, il a raison, croissance qualitative et quantitative ensemble. Il n'y a point de recherche d'une croissance quantitative au détriment de la croissance qualitative ou inversement. Ah, des églises qui se replient pour toujours essayer de devenir, de se sanctifier davantage, on œuvre, soi-disant, pour une sanctification toujours en pleine montée, et puis on néglige l'évangélisation. Ou inversement, on se lance dans l'évangélisation, on néglige l'église. Hein? Et alors, l'évangélisation n'a plus d'appui. Vous savez, Dieu, quand il a un témoignage dans une ville, une localité, un endroit, enfin, Dieu ne va pas s'en donner un second. Il en a un, il veut compter sur ce témoignage, le témoignage de l'Église locale. Par conséquent, n'est-ce pas, il faut que les deux croissances, comme l'a dit Peter Jones, les deux croissances soient conjuguées. Et puis, nous avons lu dans ce passage aussi, au verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » L'état d'homme fait. Une croissance se manifestera et portera l'Église à l'unité. C'est ce que ce passage nous affirme. L'unité, c'est pas humainement que nous l'obtiendrons par ce processus assez complexe peut-être, n'est-ce pas, du perfectionnement des saints d'abord, lesquels exercent le sacerdoce royal, le ministère, le service de l'Église, et puis ensuite la construction du corps de Christ. Une croissance, donc, va porter l'Église à l'unité par une connaissance profonde du Fils de Dieu. Et lorsque le Christ est insuffisamment connu, la communion avec lui est nécessairement faible et il y a défaut d'unité de la foi. La connaissance du Christ marche avec l'unité de la foi. Il ne peut pas y avoir unité de la foi sans que l'Église, les membres de l'Église grandissent, croissent dans la connaissance, comme dit Pierre, n'est-ce pas, croître dans la connaissance de Dieu et du Fils de Dieu. Et la connaissance de Dieu et du Fils de Dieu, c'est la relation vivante avec Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la communion. Quoique le mot soit peut-être un peu fatigué maintenant, après tant d'usage. La construction du corps se fait dans l'amour, nous est-il précisé. Chacune des parties du corps reçoit la force, la sagesse, l'intelligence spirituelle, les directions qui lui conviennent. C'est ça, n'est-ce pas, que Paul appelle dans la version second, grâce à tous les liens de son assistance. Hein, et les liens de son assistance, c'est la force, la sagesse, l'intelligence spirituelle, les directions qui conviennent, ils sont calculés, mesurés, à destination de chacun. Chacun en reçoit la part qui lui convient. L'Église, vu comme un corps vivant, organisé, parvient alors à former un ensemble dont les liens internes doivent leur origine et leur force au Christ qui est la tête du corps. Non pas le chef, mais la tête du corps. Maintenant, nous allons dire quelques mots de l'autorité dans le ministère. C'est évidemment, ce serait un chapitre à ouvrir, j'ai eu l'occasion de faire des conférences là-dessus, il faut que nous en disions un petit mot avant d'envisager la responsabilité dans le ministère. Dans quelle mesure et comment l'autorité peut-elle être exercée par ceux qui ont la charge d'un ministère ? La parole elle-même, lorsqu'elle est conduite par l'Esprit, dans la mise en œuvre d'un charisme, apporte sa propre autorité. La parole elle-même apporte son autorité. L'exercice du charisme, nécessairement, ne peut se faire que dans un climat d'autorité spirituelle. L'autorité, elle est là. Le charisme se manifeste à travers l'homme qui l'a reçu, et alors là, l'autorité vient en même temps. L'autorité qui est de nature spirituelle. Je vous rappelle ce qu'il est dit du Seigneur Jésus, il enseignait comme ayant autorité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui enseigner autrement qu'avec l'autorité ? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Jésus était reconnu comme un prophète puissant en œuvre et en parole. Dans l'édification de l'Église, l'apôtre Paul reconnaît que lui-même dispose d'autorité. Je lirai 2 Corinthiens chapitre 10. Et verset 8, « Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pas pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. » Donc là, Paul reconnaît qu'il a reçu autorité pour exercer son ministère. Jésus déclare de son côté, et cela, si l'on y réfléchit bien, fait apparaître l'autorité spirituelle qui s'attache à l'exercice d'un don ou d'un ministère. Il a déclaré ceci, « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Et celui qui m'écoute, écoute mon Père qui est dans les cieux. Il a dit aussi, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous voyez, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il y a l'autorité là. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait quelquefois des expériences, malheureusement, pas assez nombreuses. On voudrait en faire tellement de ces expériences qu'on considère quelquefois comme exceptionnelles. Il est vrai qu'elles le sont. Il y a des choses exceptionnelles dans le service de Dieu. Des choses magnifiques. On voudrait les renouveler souvent, mais enfin... cela dépend de l'Esprit Saint. Mais, par exemple, aller, je me rappelle être allé par une fois particulièrement dans une ferme avec un autre frère. Bon, nous allons, je ne sais plus pourquoi, comment nous étions dirigés dans cette ferme, je ne sais rien, mais enfin, on n'y connaissait personne. On devait aller dans cette ferme. Nous allons. Nous frappons à la porte. Nous voyons une dame. Et nous lui disons, Madame, nous sommes des disciples de Christ, nous venons vous parler de l'Évangile. Entrez, messieurs, entrez, on s'assoit, des membres de la famille Harry, nous parlons avec une facilité extraordinaire, le frère et moi. Ça coulait tout seul, nous voyons la famille se convertir. Vous savez, c'est formidable, n'est-ce pas ? Une puissance, là, n'est-ce pas, qui était amenée, nous étions, j'ai dit après aux frères, nous avons été les jambes qui sont allées dans la ferme, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment le Seigneur qui y est allé, c'est pas nous. C'est pas assez. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui m'écoute, qui vous écoute, m'écoute. Oh, chers amis, c'est fantastique ça, n'est-ce pas? Alors, et là, nous voyons bien la véritable autorité. De quelle nature elle est, cette autorité? C'est l'autorité du Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute. C'est l'autorité du Seigneur. Évidemment, faut pas glisser la chair là-dedans, au milieu, n'est-ce pas? Faut pas la glisser là. Les conseils, les avertissements doivent être délivrés avec autorité, ce qui suppose qu'ils résultent tant d'une juste mise en application de la parole de Dieu que de discernement et que de pondération et de sagesse. Paul dit à Tite, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Alors, l'autorité suprême, Dieu seul est souverain, c'est l'autorité infaillible à laquelle doivent se rapporter toute autorité déléguée, bien sûr. Accomplir la volonté de Dieu, tel est l'objectif principal. En cela réside, d'ailleurs, vous le savez, le principe de vie. Maintenant, il y a un danger qu'il ne faut pas méconnaître, je ferai simplement, borderai à le signaler maintenant. Il y a dans le monde, depuis pas mal de décades, et c'est toujours là, ça flotte toujours, partout, hein, un principe qui gagne les cœurs des hommes, c'est le principe que quelqu'un a appelé d'anti-autorité. L'anti-autorité, il est né dans le monde par l'action du malin, et malheureusement, ce principe, on le voit s'infiltrer dans l'Église. Ce mauvais vent d'anti-autorité a pénétré dans l'Église. Je ne sais pas si c'est le cas par ici, mais enfin, moi, je l'ai vu à l'œuvre, et ça, c'est assez redoutable. Si bien que, là, il faudra que ceux qui sont chargés de diriger l'Église, de la conduire, aient beaucoup de discernement et une action sûre pour combattre cela. Mais bon, je ne vais pas plus loin là, et nous allons maintenant envisager rapidement aussi la responsabilité dans le ministère. Le ministère est une charge confiée à un membre d'Église pour la construction du corps de Christ selon Éphésiens 4, 11 à 16, que nous avons vu tout à l'heure. Son exercice, l'exercice du ministère, requiert fidélité, amour et dévouement. Rappelons les exhortations de la parole dans Acte 20, Paul en présence des anciens d'Éphèse. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça, c'est la chose sensible. L'Église qu'il s'est acquise à ce grand prix, dira Pierre, à ce prix extraordinaire, à son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais toi, dit aussi Paul à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il dit encore dans 1 Timothée 3, 13, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et Pierre, dans son chapitre 4 de la première épître et verset 11, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
De ces instructions, vous le voyez, découle manifestement une double responsabilité dans l'exercice du ministère. Responsabilité pour celui qui exerce le ministère, responsabilité d'une marche chrétienne personnelle qui soit un modèle. Prenez garde à vous-même, dit Paul aux anciens. Une marche chrétienne personnelle qui soit un modèle. Si le pasteur n'est pas un modèle, alors, lui qui va paître l'Église, lui qui doit paître l'Église, et nous avons vu ce en quoi ça consistait de paître l'Église, alors qui sera le modèle ? Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Il a été inspiré à mettre ça dans ses épîtres. Il faut donc cette première responsabilité d'une marche chrétienne. Seconde responsabilité d'un accomplissement fidèle et consciencieux du ministère. Et la parole de Dieu comporte des avertissements, notamment celui-ci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, 10. Et puis encore cet avertissement, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est catégorique, vous savez, la parole de Dieu, elle est catégorique, et merci pour cela. Proverbe 18, 9. Et puis enfin, évoquons aussi la responsabilité encourue par l'exercice d'un ministère, comme Paul le fait lui-même dans Actes 20, 26, disant « Je suis pur du sang de vous tous ». Et il se réfère évidemment à des passages du prophète Ézéchiel au chapitre 3, au chapitre 33, où il est dit que la sentinelle doit avertir, et si elle avertit, bon, elle est déchargée du sang de ceux qu'elle a avertis, mais si elle n'avertit pas, je lui redemanderai le sang de ceux qu'elle n'a pas avertis. Et maintenant, je voudrais, toujours dans l'ordre de la responsabilité, lire avec vous Luc. Et vous savez, nous traitons de la responsabilité dans les ministères parce que mon sujet général était les ministères dans l'Église. Mais ce que je viens de dire pour les ministères, vous savez, on peut très bien, et il faut même, l'accueillir pour le travail personnel de chacun des membres, le travail de témoin, le travail dans l'Église, le travail de la prière. Chaque chrétien a sa part, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de chrétien inutile ou oisif. Alors, Luc 12, verset 41. 41 à 48. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.
Alors voilà, là, un enseignement du Seigneur, qui lui aussi met gravement la responsabilité en lumière. L'économe fidèle doit avoir à cœur de ne pas manquer aux obligations de sa fonction, qui est de nourrir les gens, ici nous voyons cela, nourrir les gens de son maître, donc il est serviteur sur les gens de son maître. Voyons bien là, n'est-ce pas, un mystère. Nourrir en tout temps utile. Littéralement, dans le texte grec, c'est leur distribuer la ration de froment. Leur distribuer la ration de froment. En temps utile. La récompense de cet économe sera magnifique. Il sera établi sur tous les biens du Seigneur. Est-ce qu'on peut se voir un peu d'avance dans cette situation, établie sur tous les biens du Seigneur? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Seigneur le dit, établi. Ah, ben oui, mais alors, il faut que nous soyons vraiment ponctuels dans l'exercice de notre fonction. Par contre, l'économe sans conscience, lui, il se donne des raisons. Il considère le retard de son maître, c'est-à-dire qu'il substitue à la promesse du retour une constatation humaine qui sent la lassitude. Au lieu de rester établi sur la promesse, n'est-ce pas, du retour du Seigneur, et pour que nous y restions, notre frère a fait des petits papillons et tous les jours nous rappelle que le Seigneur peut revenir. Bon, alors, c'est bien de le rappeler, mais il faut agir en conséquence. Il faut avoir les reins sains et les lampes allumées. Alors, lui, l'infidèle, eh bien, la promesse du retour, bon, c'est trop loin, on ne sait pas quand le maître reviendra. Alors, il substitue, se met à raisonner, substitue une constatation humaine, il est en retard, et alors, il est là. Bon, alors il va faire autre chose, il va se laisser aller. Cette constatation l'éloigne de la foi et de l'amour et le ramène aux œuvres de la chair. Aux œuvres de la chair. Et c'est ce que le Seigneur nous a montré, il est en plein dans des œuvres affreuses de la chair. Alors il maltraite les gens de son maître. Et lui-même se livre à tous les excès possibles. La punition de ce serviteur sera redoutable. Laissons-la telle qu'elle est dans le texte. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Je ne commente pas. La punition, donc, est redoutable. Ici, les gens du maître sont également appelés serviteurs et servantes. L'économe sans conscience les frappe, mange et boit pour son plaisir à lui. Il est l'image de celui qui, abusant de l'autorité que son ministère lui confère, impose à l'Église sa volonté propre, ses propres décisions et une parole qui n'est pas celle de Dieu. Il fait œuvre de la chair et non œuvre de l'esprit. L'Évangile de Matthieu accentue les désordres de cet économe-là dans un passage parallèle en disant « s'il mange et boit avec les ivrognes ». Ici, Luc nous dit qu'il mange et boit, mais Matthieu nous dit « avec les ivrognes », ce qui montre que ce serviteur infidèle se met en relation avec des buveurs étrangers à la maison de son maître. Matthieu indique en plus de Luc ceci, « c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents ». Deux remarques à faire. Le fidèle qui a charge de ministère doit poursuivre des buts qui ne sont pas de ce monde, mais du monde à venir. En effet, conduire des âmes à Jésus-Christ et au salut éternel, ça se fait maintenant, pendant que nous sommes sur la terre. Mais en vue de quoi? En vue d'une espérance qui se situe dans les cieux. Et, chers amis, nous accomplissons, nous sommes ouvriers avec Dieu, dit Paul, nous accomplissons un travail qui a des fins, des buts spirituels, et nous l'accomplissons avec des moyens spirituels qu'il faut mettre en œuvre dans le naturel de nos personnes. Le naturel de nos personnes, c'est-à-dire dans l'animation de la vie courante que nous avons. Mais ça ne vient pas de notre cœur, de notre imagination, de nos intuitions, de notre volonté propre. Ça ne vient pas de tout ça. Ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu, du Seigneur. Et le Seigneur anime tout cela en nous. Et notre cœur se remplit d'un puissant et saint désir de servir le Seigneur en faisant ce bien par le moyen de sa propre puissance auprès des âmes de l'Église. Remarque 2. Il y a une forme de pastorat unique et autoritaire qui tend à supprimer la responsabilité personnelle des membres de l'Église. Ce n'est pas un des moindres défauts, je ne l'ai pas signalé quand nous avons parlé de la collégialité, je n'ai pas signalé cela, mais ce n'est pas un des moindres défauts de ce pastorat autoritaire. Il supprime la responsabilité personnelle des membres. Et combien on constate ces choses avec douleur? Quand, par exemple, les membres de l'Église ne peuvent plus rien faire, rien penser, absolument rien, sans aller tout de suite vers le pasteur, en lui disant « Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que, etc., etc. » Ou alors, si quelque chose se produit autour d'eux qui ne leur paraît pas entrer tout à fait dans les consignes du jour, alors vite ils courent au pasteur. Il y a ça, un tel a fait ceci, a fait cela, monsieur le pasteur. C'est quelque chose de lamentable, ça. Quelque chose de lamentable. J'ai vu ces situations. Non, ça c'est... Alors je dis bien, n'est-ce pas, que le pastorat unique, autoritaire, non selon l'esprit, mais selon la chair, selon l'homme, ce pastorat autoritaire tend à supprimer la responsabilité personnelle des membres de l'Église, qui sont mis en sujétion. Ils sont mis en sujétion, ils obéissent au pasteur, sans faire usage d'aucun discernement. Et ces âmes restent dans l'enfance, dans la faiblesse. Un tel ministère encourt une grave responsabilité. Les membres de l'Église locale, ainsi dirigés, ne peuvent jamais devenir majeurs et ils sont obligés de rester dans cet état d'enfance et de faiblesse. Pierre, pourtant, dit « Paissez le troupeau de Dieu avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et enfin, je voudrais, toujours dans l'idée de la responsabilité dans l'exercice du ministère, je voudrais vous relire un passage dont on a fait certains usages plutôt curieux. C'est dans 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, là, on a appliqué à tort, bon, je ne veux pas entrer dans cette polémique, si vous voulez, contre certaines applications qui ne sont pas acceptables de ce passage. Il s'agit de quelqu'un qui bâtit quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a tout laissé, qui est retourné à ce qu'il a vomi. C'est quelqu'un qui bâtit quelque chose. Mais il n'emploie pas les bons matériaux. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être conscients de cela, non pas pour nourrir dans nos cœurs un esprit de révolution, de révolte, surtout jamais, jamais, ni révolte ni révolution, mais pour être au clair, et pour savoir, nous-mêmes, membres de l'Église, qui que nous soyons, quelle est notre responsabilité. Eh bien, le feu, c'est l'épreuve, éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et là apparaîtra encore la responsabilité du ministère. Et qu'est-ce que c'est que de construire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Eh bien, c'est bâtir le vrai tabernacle, c'est bâtir avec les bons matériaux, c'est bâtir avec la parole de Dieu, bien enseignée, bien comprise, et elle-même énoncée sous la puissance et la direction du Saint-Esprit, c'est bien suivre tous les enseignements et toutes les consignes que nous avons dans la parole de Dieu pour faire grandir, croître l'Église. Paul le dit dans les Colossiens qu'il s'est évertué à présenter tout homme devenu parfait en Christ. Et il fait ça, dit-il, avec la puissance du Saint-Esprit dans le premier chapitre des Colossiens. Tout homme devenu parfait, il a ça à cœur. Voilà quelqu'un qui bâtit bien, sur le bon fondement, naturellement, n'est-ce pas, mais il bâtit bien. Et c'est à quoi nous sommes invités. Et puis enfin, pour terminer tout à fait, j'ai encore quelques minutes, je crois. Ah, bon, alors, pour terminer tout à fait, je vais dire quelques mots du pouvoir des clés. Une chose qui nous a préoccupé aussi, je crois que c'est M. Peter Jones qui en a parlé, semble. Nous avons dans Matthieu 18, vous le savez, Matthieu 18, ce fameux passage. Il est fameux parce que vous savez à quoi il a donné naissance. Chapitre 18, verset 18. C'est pas 18, c'est 16. Voilà. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Demande Jésus. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Pierre, tu es heureux, Simon-Pierre. Attendez, pardon, je vais faire une fille. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, pardon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bon, ici, évidemment, il y a une nuance dans le texte grec qui ne peut pas apparaître dans le texte français, parce que il y a Petros et Petra. Il n'y a pas le mot n'est pas le même, n'est-ce pas? Petros et Petra. Et puis enfin, il faut dire que Pierre, ici, n'est pas encore un prénom. Tu es Pierre. Tu es un morceau de roc, tu es de la pierre. Simplement, et sur ce morceau, sur cette pétra, sur ce bloc de pierre, je bâtirai mon église. Voilà ce que dit littéralement le Seigneur. Et ce pouvoir des clés que nous voyons apparaître à la suite de cette déclaration est repris dans Matthieu 18, 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et ça, c'est à l'adresse des autres. Donc ça ne reste plus particulier à Pierre. Et puis, dans Jean aussi, dans Jean 20 et verset 23, là, le Seigneur apparaissant, dit ceci, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc le pouvoir des clés consiste dans le pouvoir de lier et de délier ou de retenir les péchés, et naturellement de retenir, d'empêcher la condamnation qui s'ensuit, ou de pardonner. Et s'il y a pardon, alors c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce qui ferme le royaume, c'est le maintien des péchés. La grâce fondamentale, c'est celle du pardon des péchés. Elle est à la base de tout. On peut très bien, n'est-ce pas, dire, si on ne veut pas de cette grâce, si on ne veut pas admettre ça, si on ne veut pas passer par là, rechercher cela, tendre à cela, eh bien alors fermez la Bible et mettez-la dans le placard. Le reste ne peut plus intervenir. Si la grâce fondamentale du pardon du péché n'est pas ce dont on sent le besoin essentiel, premier, et si ce n'est pas cela que l'on reçoit par grâce, eh bien, il n'y a rien de possible. C'est clair. Ah, il ne faut pas chercher autre chose. Ce serait chercher un détour, un autre chemin. Ce n'est pas possible. Bon, alors, donc, c'est pourquoi ce pouvoir de lier et de délier a tellement d'importance. Ce qui ferme le royaume, c'est le maintien des péchés. Ce qui ouvre le royaume, c'est la grâce de Dieu qui apporte précisément le pardon des péchés. En Matthieu 16, 19, là où le Seigneur, et c'est le seul passage que nous ayons là-dessus, là où le Seigneur dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église », Pierre, là, personnifie en tant qu'apôtre et témoin, car il vient de faire œuvre de témoin, il personnifie le ministère de la nouvelle alliance. Le sacerdoce, le ministère de la Nouvelle Alliance, qui va être remis à l'Église. Il personnifie ce ministère-là. Jésus s'empare de lui parce qu'il vient de faire cette confession et ce témoignage avec l'Esprit de Dieu. Et alors là, Jésus saisit cette occasion pour parler à l'Église du ministère de la Nouvelle Alliance. Au travers de Pierre, l'Église reçoit sa vocation essentielle, qu'elle accomplira en annonçant la parole de vie. En annonçant la parole de vie, comme Pierre le dit dans le chapitre 2 de sa première épître, comme Paul le dit dans les Philippiens, annoncer la parole de vie, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est tout cela, tous les membres de l'Église y sont conviés. Vraiment, il faut faire cela avec l'Esprit, chers amis, n'est-ce pas? Oh là là. Mais à travers Pierre, l'Église reçoit sa vocation essentielle. Et c'est par la prédication de la grâce que le pouvoir de lier et de délier va s'opérer. Nous avons là des passages, d'autres passages qui le montrent. Je vais lire par exemple dans Matthieu 10 et verset 13. En rentrant dans la maison, ah oui, voilà des instructions du Seigneur. En rentrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Vous voyez, c'est donc par cette parole, les paroles de vie, que l'on exerce, l'Église exerce ce pouvoir de pardonner ou non. Ce n'est pas évidemment l'Église qui pardonne, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Mais le Seigneur le fait par les membres de l'Église, c'est-à-dire son corps. L'Église, ne l'oublions pas, est son corps. Alors là également se trouve une responsabilité du ministère. On peut dire que la responsabilité du sacerdoce universel s'éclaire magnifiquement là. À tout pouvoir donné ne peut que correspondre une responsabilité. Et je terminerai en citant ceci de Paul, que j'ai déjà cité, mais une fois de plus, n'est pas de trop, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Amen.